et un sarcophage.
Les chroniques gastrosophiques du professeur Rosmini.
Assez peu de bandes dessinées sont consacrées à la cuisine comme un thème principal. Et ça permet de souligner d'autant plus l'importance du livre de Masayuki Kusumi et Jiro Taniguchi, qui s'appelle Le Gourmet solitaire, qui a été édité en France chez Casterman en 2005. Alors, Le Gourmet solitaire, enfin, nous propose 18 chapitres qui mettent en scène le même personnage, un représentant de commerce, qui a la particularité d'être très attentif à ce qu'il mange. Et donc chaque chapitre, en fait, porte le nom d'un plat et du lieu où notre gourmet va manger ce plat ou ce repas. Les lieux sont très divers, d'ailleurs, sauf le McDo qui vient d'ouvrir et que notre gourmet néglige. Il a très peu d'a priori, il mange dans des lieux très différents, ou du moins s'il a des a priori, il est toujours prêt à revenir dessus. Il y a par exemple un chapitre où il va manger dans un restaurant bio tenu par des hippies. Au départ, il a plutôt des préjugés négatifs. Et puis, en fait, il s'émerveille finalement parce qu'il retrouve un goût oublié. Donc, il dépasse là aussi son a priori. Alors, ces 18 chapitres, donc, qui ne racontent rien d'autre que 18 repas, pourrait être perçu comme un exercice de style un peu vain, un peu inutile. Or, Le Gourmet solitaire est beaucoup plus que cela. Alors, tout d'abord, il illustre une position esthétique que Robe-Grillet, par exemple, avait résumée en disant « Un écrivain, c'est d'abord quelqu'un qui n'a rien à dire. » Fin de citation. Et puisqu'effectivement, dans Le Gourmet solitaire, l'aspect plutôt, disons, modeste et prosaïque du contenu conduit à se focaliser davantage sur la forme. Et notamment sur le style très cinématographique de Taniguchi, avec l'utilisation d'une voix off qui nous permet de partager les expériences culinaires de ce gourmet solitaire. Utilisation d'onomatopées animales quasiment quand il mange et qui interrompent donc sa voix off. Il y a beaucoup de croques, de miam, de haf, etc. Le montage aussi, un montage assez cut, puisque les chapitres s'achèvent souvent brutalement, sans qu'il y ait vraiment de fin, sans qu'on s'y attende. L'utilisation de flashbacks, donc là aussi technique cinématographique, notamment quand un goût ou un lieu rappelle au gourmet solitaire un souvenir heureux ou malheureux. Aussi, chez Taniguchi, quelque chose de très présent, c'est une maîtrise virtuose du cadrage, avec une alternance de gros plans, de plans moyens, de plans d'ensemble. L'utilisation aussi intéressante de plongées et de contre-plongées, qui font que le gourmet est parfois vu du point de vue des aliments. Et puis très souvent aussi, on voit les aliments qu'il va manger en plongée, en fait, en vue en plongée, qui évoque un peu, d'ailleurs, c'est vu le tableau piège de Spoerry, sauf qu'ici, en fait, l'éphémère est figé avant de manger l'aimé et non pas après. Donc voilà, tout ça nous donne à penser qu'une œuvre d'art vaut au moins autant par sa forme, bien évidemment, que par son contenu. Mais le contenu n'est pas négligeable non plus dans Le Gourmet solitaire, puisque ce personnage illustre la notion japonaise de yo-yo. Alors, yo-yo, qu'est-ce que c'est que le yo-yo ? Eh bien, c'est une forme de disponibilité, de suspension de l'agitation, du stress, une forme d'attention pour les choses, les perceptions, y compris les choses qui ne captent pas habituellement notre intérêt. Et c'est vrai que le gourmet solitaire est intéressant parce que lorsqu'il mange, on voit qu'il est tout entier à ce qu'il mange et qu'il n'est perturbé par rien. Et donc son expérience est un mélange d'analyses précises des mets. Par exemple, il recherche toujours les ingrédients, il s'interroge sur les modes de cuisson, etc. Et puis aussi par une rêverie, par une tendance à l'onirisme comme ça dans ce que lui inspire ce qu'il mange. Et en effet, le gourmet est toujours prêt à s'étonner, à s'émerveiller, à vivre son repas du midi comme s'il s'agissait d'une aventure du corps et de l'esprit. Et finalement, Le Gourmet solitaire, c'est aussi un livre d'aventure, même si encore une fois, il ne raconte que des repas. L'expérience du mangeur, donc dans cette bande dessinée, est présentée comme une expérience phénoménologique totale, puisqu'il y a une interpénétration finalement de la perception des aliments, bien sûr, mais aussi de la perception du lieu où ils sont dégustés. Il y a par exemple un chapitre où il s'imagine comme s'il était un haut fourneau engloutissant du carburant parce qu'il mange dans une zone industrielle où il y a des usines. Perception aussi des souvenirs qu'évoque donc Sémé. Et puis aussi interpénétration des effets sur le corps lui-même, hein, sur l'importance des effets de l'alimentation sur le corps. Je pense par exemple à un chapitre où il déguste un curry de saucisse en plein soleil et où son corps se met à transpirer comme ça de façon excessive et où donc les aliments qu'il mange modifient sa manière d'être au monde. Alors cette culture de l'attention qui chez le gourmet solitaire est maximale donc quand elle porte sur les aliments, eh bien, elle est aussi pour lui transposable à toute chose, puisque finalement, le gourmet solitaire, ce personnage attachant, est aussi attentif aux inégalités sociales, au mode de vie de ses contemporains, ou aux transformations urbaines, ou aussi bien qu'à la texture des haricots noirs sucrés en gelée.
Kai en sarcophage.
Les chroniques gastrosophiques du professeur Rosmini, tous les dimanches à 13h30.